Alors bonsoir, mes meilleurs vœux à tous. Je vous souhaite de commencer l'année sur le bon pied et que l'année soit agréable et enrichissante pour vous. Voilà, alors, oui, volontiers, si personne ne... Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la question des passions chez Hobbes. Je vous remercie. Alors, Hobbes est un philosophe dont on connaît le nom, mais on n'en connaît souvent pas grand-chose d'autre, ou des choses très particulières. Rien que pour vous donner un exemple, son principal ouvrage, le Léviathan, il n'a été traduit en français intégralement qu'en 73, donc quand même plus de trois siècles. On avait traduit les deux premières parties, mais pas. C'est pour vous dire combien c'est un auteur qui reste encore mal et peu connu. Alors souvent, on caricature très fort aussi Hobbes. Si vous connaissez quelque chose de Hobbes, à part le nom du Léviathan, c'est très certainement la citation « L'homme est un loup pour l'homme ». Or, ce n'est pas une citation de Hobbes. C'est une citation de Plaute qui est reprise, mais fortement transformée par Hobbes, qui est écrite dans « Le citoyen ». Oui, je n'ai pas mis chaque fois en dessous les citations. C'est, si je n'ai pas cité, c'est toujours tiré du Léviathan. Alors voilà ce que dit Hobbes. À coup sûr, l'une et l'autre formule sont vraies, qui déclarent l'une que l'homme est un dieu pour l'homme, l'autre que l'homme est un loup pour l'homme. Alors vous voyez tout de suite comment on réduit très fortement la pensée de Hobbes quand on prétend que pour Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Il y a une partie essentielle qui est mise de côté. Alors, je vous réexpliquerai par la suite, quand on en viendra à l'aspect plus politique, cette citation ici. Je la cite. En fait, l'idée, c'est que l'une que l'homme. J'ai quelle horrible faute. Excusez-moi, je ne ré. Oui, mais je ne résistais pas quand même. Alors F5, voilà. Heureusement, c'était au début. Alors. En fait, dans la République, pour lui, l'homme est un dieu pour l'homme, et on verra pourquoi et comment. Et dans l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. Mais il centre tout son ouvrage sur la République, auquel il fait référence ici. Donc ça change énormément. Alors, autre élément, Hobbes est vu uniquement comme un philosophe politique. Et on ne connaît que cet aspect de sa pensée. Or, chez Hobbes, il y a vraiment une philosophie complète. Il part de la physique, de la physiologie, et puis il passe à l'anthropologie, à la théorie de la connaissance, à la philosophie morale, bien sûr à la philosophie politique qu'il prétend lui faire une science politique et pas juste une philosophie politique. Et puis, il traite aussi de théologie. Donc, on a absolument une philosophie globale et pas juste un aspect politique. Et ici, à partir des passions, je vais vous montrer de manière générale parce que les passions vont vraiment intervenir dans à peu près tous les domaines de sa pensée. En fait, on trouve La question des passions abordée dans 4 ouvrages, Les éléments de la loi, qui circule sous le manteau des 1640. Donc Hobbes n'a pas décidé de l'éditer. C'est le texte qui est traduit par D'Holbach au siècle suivant, enfin la première partie sous le texte de la nature humaine dont vous avez peut-être entendu parler. Il entrait dans le Léviathan, qu'il publie en anglais en 1651 et dans une version développée en, dans une traduction latine qu'il fait lui-même en 1668, puis dans le De corpore, toujours pas traduit aujourd'hui, et de même le De homine en 55, respectivement pris en 58, qui ne sont toujours pas traduits. Pour comprendre la pensée de Hobbes, il faut vraiment repartir depuis le début et depuis la physique. Je passerai rapidement, mais vous verrez qu'on ne peut pas comprendre la philosophie de Hobbes et ce qu'est les passions chez lui si on ne repart pas de la physique. Alors, c'est un philosophe matérialiste au sens philosophique du terme, c'est-à-dire que tout vient de la matière, qu'il n'est absolument pas besoin d'un principe transcendant ou spirituel pour expliquer quoi que ce soit. Tout ce qui existe dans l'univers est nécessairement un corps, c'est-à-dire de la matière. Le mot « corps », dans son acception la plus générale, désigne ce qui emplit ou occupe un espace, c'est-à-dire un lieu conçu par l'imagination, donc occupe un espace déterminé et qui ne dépend pas de l'imagination, mais une partie réelle de ce que nous appelons univers. L'univers, en effet, étant l'agrégat de tous les corps, il n'est aucune de ces parties réelles qui ne soit aussi un corps, et aucune n'est proprement un corps qui ne soit aussi une partie de l'univers, agrégat de tous les corps. Donc, tout ce qui est de nature corporelle, autrement dit matérielle. Et ça va loin chez Hobbes. Il va expliquer comment la pensée est matière, comment s'il existe des esprits, ils sont matière, et s'il existe un Dieu, il ne peut être que corporel également. Donc, c'est vraiment une pensée assez radicale dans son matérialisme. Élément important, que le principe de la matière, c'est le mouvement. Et tout va donc s'expliquer sur base de cette matière et de mouvement de la matière. C'est un élément important de l'époque. On peut faire une des démarcations entre la science antique et la science moderne à partir de cet élément du mouvement. Dans l'Antiquité, l'état normal, c'est le repos. Tout vise à rejoindre l'état de repos. Dans la science moderne, c'est conserver le même état. Donc également, quand il y a mouvement, c'est le mouvement. C'est qui est dit sous forme qui est très proche du principe d'inertie chez Hobbes. Il dit, une fois qu'un corps est en mouvement, il se meut éternellement, à moins que quelque autre chose ne s'y oppose. On a là donc quelque chose d'assez important. Alors, ce n'est pas une découverte de Hobbes. Les expériences de Galilée sur le mouvement, vous voyez un peu ici, qui regarde avec les plans inclinés, datent de 1604. Mais on est vraiment dans ici une formulation assez proche. Donc je vous appelle. Donc une fois qu'un corps est en mouvement, il se meut éternellement, à moins que quelque autre chose ne s'y oppose. Et voilà, en 1687, la formulation de la première loi du mouvement selon Newton. Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer d'état. Donc on est vraiment ici sous une formulation plus scientifique, mais aussi plus tard, on est vraiment dans cette perspective de la matière et du mouvement. On est aussi dans une vision qu'on appelle empiriste, c'est-à-dire que la connaissance et le rapport au monde vient des sens et que tout peut se créer à partir de là. Chez l'homme, toute connaissance peut se faire à partir des différents sens et des organes des sens. Alors, et vous allez voir pourquoi il faut expliquer ça pour en arriver aux patients. Comment est-ce que ça se passe? On a un objet qui va exercer sur les sens directement quant aux touches, indirectement quant aux voix, une pression sur un organe des sens. Cette pression va être transmise par les nerfs jusqu'au cerveau qui vont, explique Hobbes, exercer une pression, le cerveau va exercer une pression contraire, une réaction à cela, et c'est ce mouvement contraire qu'on appelle la sensation. Alors, dans la vision habituelle, les sensations, elles sont passives. On reçoit les sensations et c'est tout. Chez Hobbes, on a déjà une vision qui est beaucoup plus proche de ce qu'on peut considérer aujourd'hui, où il y a déjà une véritable activité par cette sensation. Et ça explique pourquoi, par exemple, ici, si je regarde, il y a une infinité de détails que je devrais voir, mais je n'en perçois que certains. Je ne perçois pas tout. C'est bien la preuve, dans la version de Hobbes, que il y a une contre-réaction et que la sensation, c'est cette réaction, c'est ce que le cerveau emmagasine et c'est pas toutes les choses qui viendraient de l'extérieur. Et c'est grâce à ça qu'on va vraiment avoir une continuité entre les sensations, l'imagination, les passions et aussi la pensée. On va y venir. En fait, l'imagination, c'est donc utiliser des images. L'imagination, c'est des sensations qui vont durer après la disparition des objets. Si je ferme les yeux, je vous vois encore. Pas aussi nettement, mais je vous vois encore. Si j'essaye demain, il y a beaucoup moins de chances que je vous vois encore, ou ça sera beaucoup plus flou. Mais au moment même, les sensations vont durer au-delà de la pression et de la contre-pression directe. Et ça, cette sensation en voie de disparition, c'est l'imagination, l'utilisation donc des images. Et Hobbes va prendre l'exemple des ondes qu'il y a sur l'eau et qui vont perdurer. Alors, revoyez, une fois qu'un corps est en mouvement, il se meut éternellement, à moins que quelque autre chose ne s'y oppose. C'est ce que je vous avais pris pour vous montrer le principe d'inertie qu'on voit déjà expliqué d'une certaine manière ici. En tout cas, imposée ici. Et ce qui s'oppose à ce mouvement ne peut pas y mettre entièrement fin en un instant, mais seulement en quelque temps et par degrés. De même que dans l'eau, nous voyons les vagues, même si le vent s'arrête, pendant longtemps encore ne pas cesser d'ondoyer. De même, en va-t-il pour ce mouvement qui se produit dans les parties intérieures de l'homme lorsqu'il voit, qu'il rêve, etc. Car après que l'objet a été ôté ou l'œil fermé, nous gardons encore une image de la chose vue, moins distincte cependant que lorsque nous la voyons. Et c'est là ce que les Latins appellent imagination. Donc on a ici vraiment un... Entre la sensation et l'imagination, c'est quelque part la même chose. Simplement, ben, la pression exercée par l'objet extérieur n'est plus là dans l'imagination. Et on va voir que c'est aussi sur, de la même manière qu'il va expliquer les passions. Et on arrive maintenant véritablement à son anthropologie. Les passions sont aussi un mouvement et un mouvement corporel. C'est des mouvements internes ou le début des mouvements volontaires, explique Hobbes. Les animaux, ils ont deux types de mouvements. Les mouvements vitaux, la respiration ou la digestion, et les mouvements volontaires. Quand le langage, le mouvement, la marche, etc. Ces mouvements volontaires, ils requièrent l'imagination parce que on le fait dans un but bien précis. Et le but, il implique que l'on a imaginé ce but d'une certaine manière. Mais avant d'arriver à un mouvement que l'on voit extérieurement, au-dedans, il y a déjà quelque chose qui se passe. Il y a déjà quelque chose qui va m'amener ces commencements de mouvement. C'est vraiment les passions, ce que Hobbes s'appelle aussi effort ou conatus dans le terme qui est ceux qui lisent Spinoza doivent être habitués à ce terme-là. Ça veut dire que les affects, comme on dit aussi à l'époque, les émotions sont véritablement produits par la matière avec ce même principe de mouvement. C'est un principe de mouvement, non de transformation. C'est une autre vision aussi de la matière, une vision très mécanique. Alors, il y a des passions simples. À la base de toutes les passions, il y a, d'après Hobbes, le désir, ce qu'il appelle aussi l'appétit. C'est simplement ce qui tend à rapprocher l'homme de l'objet qui l'attire. C'est ça le désir. Vous voyez, c'est à nouveau une définition en termes de mouvement. Et l'inverse, qui est l'aversion ou la répulsion, qui est ce qui tend à éloigner l'homme de l'objet qui le repousse ou qui ne lui plaît pas. Alors, de la même manière, il va pouvoir définir l'amour. L'amour, c'est en fait un désir, mais quand l'objet est présent. Dans le désir, l'objet manque. On l'imagine, mais il manque. Dans l'amour, l'objet est présent. Mais on garde quand même ce désir, cet appétit pour l'objet. Et la haine, c'est exactement l'inverse. C'est une forme d'aversion ou de répulsion quand l'objet est présent. Et alors, il y a quelque chose qui est mis ici, mais qui n'est pas vraiment de l'ordre des passions, qui est le dédain ou le mépris. Et c'est en fait quand on ne ressent ni désir ni aversion pour un objet. Donc on est là dans l'immobilité et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment parler de passion. C'est une absence de mouvement. Donc à la base, ce désir, cette chose qui attire et qui peut prendre différentes formes comme dans l'amour quand l'objet est présent ou non, dans le désir. Hobbes va, tout comme on l'avait vu chez Descartes, tout comme on le verra la fois prochaine chez Spinoza, véritablement élaborer une nomenclature et expliquer toutes les émotions ou toutes les passions. Mais pour aller plus loin, il faut faire une parenthèse et expliquer ce qu'est le bon et le mauvais, parce que ça va permettre de comprendre mieux certaines passions. Les hommes, explique Hobbes, n'ont pas toujours les mêmes désirs. D'un homme à l'autre, les désirs changent. Mais chez un même individu, d'un moment à l'autre, les désirs changent également. On n'a pas toujours envie de la même chose. Ça veut dire, pour Hobbes, qu'on n'aura pas de bon ou de bien et de mauvais ou de mal en soi. En fait, dans la vision ancienne, on considère que l'homme va chercher à faire le bien. Chez Hobbes, on a exactement l'inverse. L'homme va appeler bon l'objet de son désir du moment. Il va appeler mal ou mauvais l'objet de son aversion du moment. Et c'est un changement et un renversement important. D'un point de vue de la morale, c'est fondamental, parce que il n'y a plus de bien ou de mal absolu. On donne une allure de morale en disant c'est bon, ou c'est bien, enfin, en disant c'est bien plutôt que c'est bon, ou c'est mal plutôt que c'est mauvais, mais on sait bien, ça dépend simplement de notre désir du moment. Et les désirs ne sont pas les mêmes chez les différents individus et surtout même chez le même individu au moment, en fonction des différents moments. On n'aura donc pas de morale absolue. Il n'y a pas de bien ou de mal en soi. Et donc, on démoralise véritablement toute la vision du monde. Alors, on verra que on peut s'entendre d'une certaine manière là-dessus, mais on reviendra plus tard quand on parlera de la société. Restons pour l'instant à la question des passions. Il y a, d'après Hobbes, trois types de bons ou de mauvais. Et pour certains, il dit, je n'ai pas d'autres mots en anglais, et on n'en trouve pas en français, plus que les latins, l'orial pulchrum, qui est le bon au niveau de la promesse. On s'attend à quelque chose de bon. Et l'inverse, le mauvais auquel on s'attend, c'est le tourpe. L'agréable, c'est ce qui est effectivement bon au moment même. Et à l'inverse, le déplaisant, c'est ce qui est objectivement mauvais sur le moment. Et alors l'avantageux, c'est la même chose, mais en tant que moyen. Quand c'est quelque chose qui va nous servir, nous être utile pour obtenir le bon, ou nous être désavantageux pour acquérir le bon. Il va également parler de volupté ou de plaisir qui sont simplement du bon aussi, mais quand on parle de volupté ou de plaisir, c'est souvent dans le sens physique du terme. Hobbes précisera, c'est une apparition pour lui du bon, la volupté ou le plaisir, et le malaise est une apparition du mauvais. Et on voit avec la définition qu'il donne, en mettant l'accent sur l'apparition, c'est aussi une manière de mettre l'accent sur le mouvement, plus que sur l'aspect physique ou non, comme c'est habituellement fait aujourd'hui. Alors, il y a un plaisir sensible qui est une forme de bon au niveau du corps, et il y a un plaisir mental qu'il va appeler joie. C'est donc un plaisir qui va lui venir non pas du corps, mais plutôt de la pensée. Même si, on va le voir, la pensée elle-même vient du corps. Le plaisir et la volupté sont intéressants, d'après Hobbes, parce qu'ils renforcent les mouvements vitaux. Tout comme, au contraire, le malaise va empêcher les mouvements vitaux, tout ce qui est plaisir va renforcer ces mouvements et cette force vitale. Et on a donc avec ça l'ensemble des passions simples qui sont le désir et son contraire l'aversion, l'amour et la haine, la joie et le contraire le chagrin, un déplaisir mental. On a là les principaux les principales passions, et c'est simple, et c'est à partir de celle-là que on va pouvoir reconstruire l'ensemble des affects des hommes. Alors, je n'en ai pris que quelques-unes pour ne pas qu'on passe son temps en définition, mais pour vous montrer comment ça marche. Après, on verra ce qu'il en fera. Alors, l'espoir, c'est un désir ou un appétit avec l'opinion qu'on atteindra l'objet de son désir. Le désespoir, c'est un appétit ou un désir avec l'opinion qu'on n'atteindra pas l'objet de son espoir. Vous voyez comment il combine. La crainte, c'est une aversion qui est accompagnée de l'idée ou de l'opinion de l'objet, du dommage causé par l'objet. La crainte, on a un mouvement de répulsion avec l'idée du mal, du dommage que peut produire cet objet-là. Le courage, c'est une aversion vis-à-vis d'un objet, mais accompagnée de l'espoir d'éviter ce dommage. La curiosité, c'est un désir, mais un désir de connaître le pourquoi et le comment. C'est, d'après Hobbes, la seule des passions qui est typique aux hommes. Les animaux n'auraient pas cette curiosité, mais sinon, ils ont aussi les différentes passions, même ceux qui sont accompagnés d'opinions, parce que je vais y venir, mais vous verrez que chez Hobbes, les animaux pensent également. Ça n'est pas réservé aux hommes. Alors, la gloire, c'est une joie, donc un plaisir mental, qui vient de l'image de sa puissance ou de ses aptitudes. La honte, c'est un chagrin à accompagner de la découverte qu'on manque d'aptitudes. Vous voyez que toutes les passions de base, avec certaines, combinées ensemble ou avec certaines opinions, vont pouvoir recomposer l'ensemble des passions, des affects que l'on ressent. Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que les passions sont fondamentalement chez Hobbes quelque chose de bon. Je vous avais montré la fois dernière combien c'était déjà le cas chez Descartes et comme c'était nouveau chez Descartes, on a un peu plus tard, mais on a encore cette idée que les passions sont quelque chose de positif en soi. L'homme est vraiment, chez Hobbes, un être de passion, un être de désir. Mais ce n'est pas du tout problématique, c'est fondamental. Comme il dit, la vie elle-même, en effet, n'est que mouvement. Vous voyez, ça revient tout le temps. Et ne peut jamais aller sans désir ou sans crainte ou sans d'autres passions. Pas davantage que sans sensation. Il va même jusqu'à dire que n'avoir pas de désir, c'est être mort. Textuellement, c'est être mort que de n'avoir aucun désir. Donc c'est quelque chose de vraiment vital et fondamental. Ça veut dire que les passions ne sont pas à réprimer, évidemment. On va vers la mort quand on empêche ses passions, quand on essaye de ne pas vivre avec. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut laisser ses passions s'exprimer dans tous les sens et n'importe comment. Il faut les orienter. Non guidées, les passions sont pour la plus grande part pure folie. On va orienter ses passions et ses désirs, mais ne jamais les éliminer ou essayer de les atténuer. Alors, qu'est-ce qui va nous permettre de guider, d'orienter ces passions? Alors, on va voir que pour ça, on va avoir besoin du jugement et de la raison. Alors, mais revenons un peu aux différents éléments. Les passions, souvenez-vous de la définition basique des passions, c'est des mouvements internes qui portent ou non à l'action. Un même objet peut à la fois être provoqué du désir et de l'aversion. Ce n'est pas toujours très clair que la même chose provoque une passion évidente. J'avais pris l'autre fois l'exemple du gros morceau de gâteau qui peut resservir ici. Il peut très bien provoquer à la fois du désir et de l'aversion en même temps. Et peut-être particulièrement après les fêtes, le deuxième sentiment. Alors, ce qu'il appelle délibération, c'est la somme de tous ces mouvements internes. On a, vis-à-vis d'un même objet, plusieurs affects, plusieurs sentiments. Et l'ensemble de ceci, c'est la délibération. Alors, pourquoi est-ce qu'il appelle délibération ? Parce que quand on a la somme, c'est que c'est fini et que donc, il n'y a plus de liberté quelque part. On a ressenti tous les mouvements, tous les affects possibles vis-à-vis d'un même objet. Et donc, la délibération, ça vaut également pour les animaux, pas seulement pour l'homme, puisqu'ils éprouvent aussi toutes les passions sauf la curiosité, tous ces mouvements internes. Et la volonté, c'est simplement le désir ou l'aversion qui vient en dernier. Quand on a ressenti toutes ces choses vis-à-vis d'un objet, à la fin, il en reste une, et celle-là, c'est la volonté. Alors, vous voyez combien ce terme qui a une connotation religieuse d'habitude très forte ou morale dans la philosophie antique très forte, qui est l'homme, avec l'idée que l'homme doit, par sa volonté et sa raison, dominer ses passions, ici, est vidé de toute cette notion religieuse ou même morale. C'est simplement le désir ou l'aversion qui vient en dernier lieu. Donc, une passion, un désir, une aversion comme les autres. Rien d'autre. Et ça veut dire que les animaux sont également doués de volonté. Alors, ça a l'air évident par rapport aujourd'hui, par rapport à l'époque, c'est loin d'aller de soi de considérer les choses de la sorte. Eh bien, on a déjà tous les éléments qui sont nécessaires à la pensée. On a les sensations, on a l'imagination, on a les passions, on a la volonté, la délibération. Parce que la pensée, ce n'est rien d'autre que l'enchaînement de ces différentes choses, imagination, passion, sensation, qui vont se suivre. Ça veut donc dire que si la pensée, c'est l'enchaînement des sensations, imagination, volonté, affect, que bien sûr les animaux pensent également. Et que la pensée n'est pas du tout réservée à l'homme. Ça veut dire aussi que la pensée, ce n'est pas autre chose, ce n'est pas quelque chose de fondamentalement différent que la sensation ou que les passions. C'est exactement du même ordre. On n'a plus du tout, et là on a une grosse différence avec Descartes par exemple, on n'a plus du tout cette idée d'une pensée qui serait détachée du corps. La pensée vient fondamentalement du corps par ce simple principe de la matière et du mouvement. Et il n'y a pas de différence. Et ce n'est pas si facile à comprendre pour nous aujourd'hui. Il n'y a pas de différence fondamentale entre la pensée et les émotions et les passions. Aujourd'hui, on oppose tout le temps les unes avec les autres. Et pour Hobbes, pas du tout. C'est du même ordre. C'est une seule et même chose d'une certaine manière. Alors, il y a quand même une différence qui est au niveau de la raison. Parce que pour qu'il y ait la raison, il faut qu'il y ait le langage. Avant, il n'y avait pas besoin du tout. On peut penser sans langage. On ne peut pas raisonner sans langage. Alors, quelle est la différence? Dans la pensée, l'enchaînement que l'on a vu entre les idées, les sensations, les affects, etc., reste attaché à la suite des sensations qu'on a eues. Par exemple, si après une sensation A, sensation qui peut être aussi un affect, hein, une passion, j'ai éprouvé la sensation B ou la sensation C, dans la pensée, je pourrais passer de A à C ou de A à B. Mais si je n'ai jamais éprouvé après A une sensation K, je ne peux pas passer directement de A à K. On reste attaché vraiment à l'enchaînement de ce qu'on a déjà éprouvé. Par contre, avec le langage, avec la raison, qui est simplement une pensée où il y a le langage en plus, on va pouvoir, par calcul, par addition et soustraction, sauter des étapes, d'une certaine manière, et passer d'une sensation A à une sensation K, ou à n'importe quelle sensation, sans être obligé d'avoir déjà senti, expérimenté la chose. La raison, c'est de l'ordre du calcul. La raison, écrit-il, n'est que le calcul, c'est-à-dire l'addition et la soustraction des conséquences des dénominations générales dont nous avons convenu pour noter et signifier nos pensées. On voit ici qu'il y a quelque chose d'arbitraire dans le langage. Ça a été convenu. Il n'y a pas un mot. On est dans une pensée aussi qu'on pourrait dire nominaliste. Les noms sont donnés de manière arbitraire aux choses. Ils n'ont pas de signification profonde en soi. Simplement, dès qu'on passe par le langage, on n'est plus restreint comme on l'est avec la pensée. C'est donc une pensée plus élaborée qui est permise, plus libre, pourrait-on dire aussi, qui est permise par l'accession au langage. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Le jugement, au niveau des passions, il y avait la volonté qui était le dernier désir ou la dernière aversion qu'on éprouvait. Au niveau de la raison, du raisonnement, le jugement, c'est simplement la dernière idée. C'est ce qui arrive à la fin quand on enchaîne les pensées et les raisons. On a ici vraiment, mais au niveau de la raison, il y a le langage en plus, mais un langage qui peut s'expliquer aussi par les corps, par la matière, bien entendu. C'est juste un signe qu'on donne pour désigner une chose. Mais donc, on voit qu'il y a vraiment un passage qui se fait naturellement sans différence entre les sensations, entre les passions, les émotions, et entre la pensée et même le raisonnement. On reste exactement dans quelque chose de même nature. On a vraiment, c'est toujours un mouvement interne du corps à partir des sensations, à partir des pressions et en réaction aux pressions des objets extérieurs. Et vous voyez pourquoi il n'est pas possible de comprendre ce qu'est la raison ou les passions chez Hobbes sans repartir vraiment de sa physique qui explique tout le phénomène. Hobbes explique même que la différence des esprits vient essentiellement de la différence des passions. Donc, on voit bien qu'on reste sur le même ordre. La cause qui fait ainsi différer les esprits réside dans les passions. Quant à la différence des passions, elle procède en partie d'une différence dans la constitution du corps et en partie d'une différence dans l'éducation. On associe presque jamais le terme d'éducation à Hobbes. Or, c'est une notion absolument fondamentale pour lui. Son Léviathan est vraiment conçu comme un traité d'éducation à destination de tous. D'ailleurs, il se lit facilement. Ce n'est pas un texte. Enfin, vous voyez les citations. Il y a de temps en temps des tournures un peu datées, mais dans l'ensemble, il n'y a rien de compliqué. Et dès qu'il utilise un mot, il va vraiment le définir avant. Il tient énormément à ce qu'on s'entende bien dans ce qu'on dit et à chaque fois redéfinir les termes utilisés. Donc, la différence des esprits, elle vient de la différence des passions. Donc, les passions sont vraiment à la base de tout et vont avoir un rôle déterminant également aussi bien dans la recherche scientifique. Ça dépend si on a plus ou moins de curiosité et pourquoi on a cette curiosité, mais bien sûr également dans la philosophie politique ou ce qu'il appelle plutôt la science politique. Alors, je vais un peu maintenant vous montrer comment fonctionnent ces passions et comment, à partir d'elles, on va comprendre la société. Or, je vais rapidement de la morale. Je m'arrêterai un peu plus sur la politique et je terminerai sur l'aspect religieux. Alors, la morale. Ici, on comprend peut-être plus naturellement parce que c'est logique de passer des passions à la morale. Mais qu'est-ce que va être cette morale? On a vu que le bien et le mal sont en fait relatifs aux personnes et aux moments. Mais ça vaut dans... Il n'y a pas donc de bien et de mal en soi. On va appeler bien ou bon ce dont on a envie, mal ou mauvais ce qui nous répugne. Ça, c'est essentiellement dans l'état de nature. Et je reviendrai là-dessus. Les passions sont néanmoins à orienter. Parce que si chacun à essaye de faire tout ce qu'il a envie, ça va, la vie en commun va être compliquée. Mais tout le monde a, explique Hobbes, un droit légitime sur toute chose. Il n'y a pas de raison, puisque simplement, si quelqu'un a envie de quelque chose, c'est légitime qu'il prenne la chose. Le problème, c'est que d'autres en auront aussi envie au même moment. Et que certaines des passions ne se combinent pas forcément ensemble. Donc, il va falloir, par le jugement, par la raison, orienter ses passions. La morale, en fait, ça consiste essentiellement à la recherche du bonheur, c'est-à-dire de la satisfaction. Et donc, c'est, explique Hobbes, voler de succès en succès. On désire une chose, ben on arrive à l'avoir. C'est tout. On est donc, même par les termes utilisés, déjà à nouveau dans l'ordre du mouvement. D'autant que Hobbes explique que le bonheur, ce n'est pas réussir dans ses succès. Ce n'est pas avoir réussi, c'est réussir. C'est une espèce de... Dans les éléments de la loi, il fera vraiment l'image d'une course de la vie comme une course joyeuse à la recherche de ce dont on a envie au moment. Il le dit, la félicité par laquelle nous entendons le plaisir continuel ne consiste pas à avoir réussi, mais à réussir. On n'est pas dans l'ordre de la possession et de la satisfaction de la possession, mais plutôt dans ce mouvement qui fait que on est plein de désirs et d'envie et on essaye de satisfaire ses désirs et ses envies du moment. Donc c'est pas du tout dans l'assouvissement, c'est pas dans le fait d'avoir des désirs assouvis. C'est dans le fait de rechercher cet assouvissement par ce mouvement. On est aux antipodes de l'ataraxie antique, qui est cet état de repos où on essaye de ne... L'homme heureux dans l'Antiquité, c'est l'homme qui n'est troublé par aucune passion, par aucun désir. La morale antique cherche essentiellement à n'avoir ni passion positive ni négative, mais d'avoir un état d'âme identique et en repos où on n'a besoin de rien. Chez Hobbes, on est aux antipodes de ça. On a une recherche très joyeuse de tout ce qui est assumé, de tout ce qui peut faire envie. Et c'est pour ça qu'il peut parler d'une espèce de course éternelle après ses désirs. On est dans l'ordre des désirs, on n'est pas dans l'ordre des besoins. Les besoins, il y a une nécessité, on est dominé, on n'a pas le choix. Dans le désir, il y a quelque chose de plus léger. On pourrait très bien ne pas désirer ça. Simplement, le désir a quelque chose de positif. Et donc, on cherche après. Alors, voyons comment il articule la politique là autour, parce que vous voyez que fondamentalement, l'homme est un être de passion et de désir. Or, un des désirs de l'homme, c'est aussi le désir de compagnie humaine. Et donc, il va falloir combiner les choses. Parce que il n'y a pas le moindre... Il n'est, n'est pas plus légitime, disons, que telle personne possède telle chose plutôt que telle autre. Et le fait d'être arrivé premier pour le prendre, ça n'est pas une bonne raison qui légitime la chose. Pour Hobbes, chacun a, dans l'état de nature, un droit fondamental sur tout ce qu'il désire et tout ce qu'il réussit à prendre. Mais, bien entendu, le désir des uns va s'opposer au désir des autres. Une même chose, plusieurs personnes vont la désirer. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On est donc dans une espèce d'état de guerre de tous contre tous, où chacun est un ennemi potentiel parce que ce dont j'ai envie et que j'ai à un moment donné, d'autres vont le vouloir également et ils ont aussi autant le droit que moi de l'avoir. Et je ne suis assurée de rien. Je suis dans cet état où ma sécurité n'est absolument pas garantie. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? C'est le plus fort qui va pouvoir s'emparer de la plus grande partie des choses. Oui, mais le plus fort ne l'est pas continuellement. Même, imaginons quelqu'un d'extrêmement fort, il doit dormir. Et pendant ce temps-là, il suffit que quelqu'un d'autre passe discrètement, qui peut n'avoir aucune force, et il peut dérober la chose convoitée. Il suffit qu'il y ait alliance même des femmes ou même des enfants qui physiquement sont moins forts pour qu'ils puissent, contre le plus fort, s'emparer de ce qu'il a. Donc, même la personne la plus forte n'est jamais sûre d'avoir ce qu'il veut. Et même sa propre sécurité n'est pas garantie. Parce que pour avoir ce qu'il a, quelqu'un pourrait très bien, pendant son sommeil, venir l'assassiner. Donc, il n'y a dans cet état de nature aucune sécurité. En plus, dans cet état de nature, le désir de compagnie est mis à mal parce que l'autre, on est dans un état de guerre de tous contre tous, donc l'autre est avant tout un danger pour moi. C'est là qu'on parle de l'homme est un loup pour l'homme. Il faut se méfier perpétuellement des gens autour de soi. Alors le désir de gloire, de reconnaissance, comme le désir de compagnie, ne sont pas faciles à assouvir. C'est pourquoi les hommes vont s'associer. Ils vont créer des pactes pour essayer d'avoir une vie plus sûre et plus facile. Parce qu'ils peuvent, à plusieurs, assouvir davantage l'ensemble de leurs désirs et de leurs passions. Mais ça veut dire qu'ils vont devoir renoncer pour cela à assouvir immédiatement tous leurs désirs. Ils ne vont pas pouvoir simplement prendre ce qui est à l'autre, sinon l'autre va reprendre ce qui est à eux, va les agresser. La vie en commun ne sera pas possible. Les passions restent dans cet état de nature la mesure du bien et du mal pour chacun. Les gens vont continuer à appeler bon ou bien ce qu'ils veulent. Il n'empêche qu'ils vont essayer de réfléchir et d'orienter leur passion, de ne pas rechercher la pure satisfaction immédiate de toutes les passions pour les satisfaire au mieux. Par exemple, la passion de la peur va faire que j'aurai tendance à fuir tout individu puisqu'il est un ennemi potentiel. Mais il y a aussi chez l'homme un désir de compagnie. Et donc, on va essayer de trouver un équilibre entre l'un et l'autre et se servir d'une passion contre l'autre ou par le raisonnement, essayer de créer des règles, des pactes pour justement essayer de ne pas avoir autant de raisons d'avoir peur des autres et pouvoir profiter des avantages de la vie en commun. Ces pactes, ces règles sont vraiment ce que Hobbes appelle les lois de nature. Donc pas du tout au sens physique du terme, mais dans l'état de nature, ce n'est pas des lois dans le sens que ce serait imposé par quelqu'un, mais on arrive par le raisonnement. Chacun arrive à l'idée qu'il vaudrait mieux, par exemple, ne pas s'agresser directement. Voici la première loi de nature. C'est un précepte, une règle générale de la raison que tout homme doit s'efforcer à la paix aussi longtemps qu'il a un espoir de l'obtenir. Et quand il ne peut pas l'obtenir, qu'il lui est loisible de rechercher et d'utiliser tous les secours et tous les avantages de la guerre. Donc, tant que l'on peut espérer vivre en paix ensemble, c'est beaucoup plus avantageux de vivre ainsi. Mais si de toute façon ça n'est pas possible, il ne faut pas continuer à rechercher sans espoir de l'obtenir réellement. Dans ce cas-là, il vaut mieux essayer de jouer à la loi du plus fort et pas de se mettre dans la position du faible. C'est la première loi. Et de cette loi-là va découler une seconde loi donc, qui dit que l'on consente, quand les autres y consentent aussi, à se dessaisir dans toute la mesure où l'on pensera que cela est nécessaire à la paix et à sa propre défense, du droit qu'on a sur toute chose. Donc, avant, on avait un droit sur toute chose. On accepte, si les autres font de même, de s'en dessaisir et qu'on se contente d'autant de liberté à l'égard des autres qu'on en concéderait aux autres à l'égard de soi-même. Donc, il y a vraiment une réciprocité. Si les autres se dessaisissent de leurs droits sur toute chose ou notamment de l'agression, qui le droit quelque part à m'agresser, ben je vais faire pareil, s'ils font pareil vis-à-vis de moi. Et comme ça, on pourra vivre ensemble. Là, on est toujours dans l'état de nature. Pourquoi ? Parce que qui peut faire respecter ces lois ? Dans l'état de nature, personne, absolument personne, ne peut faire respecter ces lois. Ces règles dépendent de la bonne volonté de tous. Et si quelqu'un n'est plus de bonne volonté ou en profite, il va rompre l'équilibre et recréer cet état de guerre de tous contre tous et cet état d'insécurité. On dépend alors totalement de la bonne volonté de tous. C'est pour ça que on va passer à la République. L'instauration de la République va consister à instaurer un souverain, une force à qui on va transférer ses droits parce que cette force-là va pouvoir imposer le respect de ces pactes, et notamment de ces pactes de non-agression. Or, voilà comment Hobbes décrit. C'est comme si, donc on est dans l'ordre de la fiction. Hobbes ne prétend pas que ça s'est réellement passé ainsi. C'est comme si chacun disait à chacun, j'autorise cet homme ou cette assemblée et je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même à cette condition que tu lui abandonnes ton droit et que tu autorises toutes ses actions de la même manière. Donc, ces pactes qu'on faisait des uns vis-à-vis des autres, si je ne t'agresse pas, tu ne vas pas m'agresser, ici, on instaure une force supérieure, qu'on appelle le souverain, qui va permettre de garantir et de préserver ces contrats, ces règles qu'on établit entre nous. Et c'est ça, véritablement, l'instauration de la République. On quitte donc l'état de nature. Le souverain, ça peut être, et c'est souvent imaginé comme tel, mais c'est l'époque aussi, ça peut être un individu, et dans ce cas-là, on est face à une monarchie. Ça peut être quelques personnes. Dans ce cas-là, on est face à une aristocratie. Ou bien, ça peut être l'ensemble de la société. On peut transférer à l'ensemble. Et dans ce cas-là, on est dans la démocratie. D'ailleurs, je vais la faire passer parce que vous ne verrez peut-être pas bien. Voilà. Regardez l'image. Si, il y a peut-être moyen de voir quand même. L'image, c'est une image que Hobbes a fait graver du Léviathan, c'est-à-dire du souverain. Le souverain, si vous voyez bien à l'entrée de l'ouvrage, si vous voyez bien, il est composé d'un tas d'individus. Le corps du souverain, c'est un ensemble de personnes. Et vous voyez bien ici que le Léviathan ou le souverain, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre purement du monarque. Ça peut très facilement, et c'est même ainsi qu'il est proposé ici, être un non sans le peuple et donc quelque part une démocratie. Alors, on avait dit que dans l'état de nature, le bien et le mal dépendaient des individus. Dans la République, c'est le souverain qui va déterminer le bien et le mal par les lois, tout simplement. Quand il n'y a pas de loi, quand il y a le silence de la loi, sur ces points-là, c'est encore l'individu qui juge le bien et le mal. Mais la loi va, sinon, déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui va permettre à chacun de s'accorder sur ces points. Alors, vous voyez pourquoi ici, on peut dire en République, on va vivre en sécurité, on va vivre avec tous les avantages que l'on peut retirer de la vie en commun. Et donc, c'est pour ça que, alors que dans l'état de nature, qui est un état de guerre de tous contre tous, ou potentiellement, en tout cas, l'homme est un loup pour l'homme, dans la République, l'homme est un dieu pour l'homme, parce que l'homme donne à l'homme tout ce qu'il peut espérer avoir par la vie en commun. Les hommes vont vraiment pouvoir s'apporter tous les bienfaits possibles grâce à cette invention ou cette instauration de la République. Alors, quelques remarques encore pour bien comprendre, parce que les idées que l'on a sur Hobbes sont assez fortes. D'abord, vous voyez combien la politique elle-même est basée sur les passions. Et la passion, le désir que les gens ont les uns et les autres et qui s'opposent. C'est vraiment tout un système qui se base sur l'homme en tant qu'être de passion. Et puis, la crainte, par exemple, ou la gloire, vont tous deux jouer un rôle très important dans l'instauration même de la République. Chez Hobbes, c'est vrai, il dit que le souverain doit avoir un pouvoir absolu. Et c'est à partir de là que vient l'idée fausse que on est dans l'instauration d'une espèce de dictature. C'est parce que pour nous, dans notre système sur la séparation des pouvoirs, mise en place au XVIIIe, pouvoir absolu, ça signifie dictature. Mais il faut comprendre ce que ça signifie chez Hobbes. Ça n'est pas du tout ça. Ça veut juste dire que le souverain, le Léviathan, qui peut être une assemblée de personnes, ne peut pas avoir de pouvoir au-dessus de lui. Et donc il n'y a pas d'autre pouvoir. Il ne peut pas même avoir un pouvoir concurrent. Parce que si on a ce pouvoir concurrent, on va retomber dans un état de guerre. Parce que Hobbes a vécu en France et en Angleterre, mais il a vraiment vu en Angleterre combien le pouvoir religieux essayait de s'approprier le pouvoir sans cesse au détriment du pouvoir temporel. Il y avait un combat du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel et que il y avait volonté. On essayait d'amener le peuple à se rebeller contre le souverain. Il ne peut donc y en avoir qu'un. Et on voit dans cette image que pour que la République persiste, le souverain doit avoir le pouvoir temporel avec l'épée et le pouvoir spirituel avec la crosse ensemble. Et sinon, on a deux pouvoirs et on ne peut pas obéir à deux maîtres sans problème. Son pouvoir absolu, ça ne veut pas dire que le souverain a pouvoir arbitraire de vie et de mort sur les gens. Ça veut simplement dire qu'il ne peut pas y avoir de pouvoir au-dessus du pouvoir du souverain. Et on voit bien que le souverain peut aussi être une démocratie. Alors, Hobbes dit précisément dans l'ouvrage qu'il préfère les monarchies aux démocraties. Mais dans l'image, il suggère plutôt une démocratie. Et vu l'époque, je ne suis pas sûre qu'il aurait pu, sans danger, prétendre qu'il serait favorable à la démocratie. Même déjà comme ça, davantage peut-être pour des raisons religieuses, mais pas uniquement, l'ouvrage du Léviathan a, et Hobbes ont eu beaucoup d'ennuis. L'ouvrage est paru en 51 en anglais. Hobbes vivait encore en France, mais revient en Angleterre peu après. Et le Parlement anglais va faire une loi contre Hobbes en disant, en précisant qu'il est responsable de la grande peste qui a sévi en Angleterre et de l'incendie de Londres. Vous voyez comme il est déjà comme ça horriblement mal vu. La loi sera votée, mais les troubles politiques feront qu'elle ne sera pas appliquée. Tout ça parce que il n'était pas pensé, on considérait, et le Parlement lui-même à l'époque considère, que Dieu envoie ses fléaux pour, parce que le peuple anglais tolère un auteur aussi impie que peut être Hobbes. Alors vous voyez que les précautions ne sont pas inutiles. Alors, la vie, l'instauration d'un souverain et d'une république n'ont de sens que si on tire des avantages de la vie en commun. Alors bien sûr, on transfère et le souverain a un pouvoir absolu, il n'a pas de pouvoir supérieur à lui. Mais on ne transfère pas tous ses droits au souverain. On ne lui transfère pas le droit de nous exécuter, par exemple. Ça n'a absolument aucun sens. C'est notamment pour vivre dans plus de sécurité qu'on passe à une république et qu'on accepte un souverain. Si on n'en tire pas avantage, ça n'a absolument aucun sens de vivre dans une république où on aurait moins de droits et donc moins de possibilités d'assouvir ses désirs. Et Hobbes le dit de manière assez claire. Le rôle du souverain, le rôle premier, c'est assurer la sécurité de tous. C'est le rôle premier. Mais il précise, qu'est-ce que ça veut dire assurer cette sécurité, cette sûreté, comme il dit ? Par sûreté, je n'entends pas ici la seule préservation, donc la préservation de la vie, mais aussi toutes les autres satisfactions de cette vie que chacun pourra acquérir par son industrie légitime, sans danger ni mal pour la République. Donc, ce que doit faire le souverain, c'est non seulement, bien sûr, assurer la préservation de la vie, mais aussi toutes les autres satisfactions de la vie. Et là, on n'est plus du tout dans l'image d'un espèce de dictateur qui jouerait avec les citoyens et qui ferait tout et n'importe quoi. Enfin, il y a des éléments d'une modernité tout à fait étonnante au niveau des droits des personnes dans la République que propose Hobbes. On est au milieu du XVIIe. Hobbes précise, par exemple, mais il y a beaucoup d'autres exemples, que les personnes qui sont malades ou qui sont trop âgées pour travailler, il n'est pas normal qu'elles dépendent de la charité publique, que c'est l'État, la République, qui doit s'organiser de manière à pouvoir assumer et prendre en charge ces personnes. Alors, j'insiste un peu là-dessus parce qu'on associe à Hobbes l'idée du libéralisme au sens actuel du terme, qui est le pas de droit pour l'État du tout et juste aux individus. Ici, il y a en même temps chez Hobbes une vision profondément sociale de l'organisation de la société et qui est souvent passée sous silence. Alors, encore un mot sur la religion, très rapide, pour vous dire que la religion aussi, elle se définit par rapport aux passions. Voilà la définition qu'il donne de la religion. La crainte d'une puissance invisible, feinte par l'esprit, ou imaginée à la suite de récits qui bénéficient d'une permission officielle, est appelée religion. Là où cette permission fait défaut, on parle de superstition. Si la puissance imaginée est en vérité telle que nous l'imaginons, c'est là la vraie religion. Donc, la religion, c'est née de la crainte. Autrement dit, elle est née des passions des individus. Ce qui veut dire que la religion, c'est une invention, quelque part, des passions qui vient des passions humaines. Or, bien sûr, si la puissance imaginée est telle qu'on l'imagine, on sera dans la vraie religion, mais il parle bien d'une puissance invisible feinte par l'esprit. Vous voyez aussi qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre la religion et la superstition. C'est simplement une superstition qui a une autorisation officielle, donc par le souverain. La religion, rien d'autre. Et si vous regardez qu'en plus, tout l'ouvrage est vraiment basé pour éduquer l'ensemble des gens, notamment contre les superstitions, parce qu'il montre tous les dangers qu'il fait, on peut avoir de sérieux doutes sur la religiosité de Hobbes. Mais ça, c'est un autre débat. Et je ne vais pas aller là-dedans pour l'instant. Alors, en guise de conclusion, deux ou trois petits rappels. Donc, l'homme, c'est vraiment un être de passion et de désir. Et les passions, donc, sont comprises sur le mot du mouvement et de la matière. Mais de passion, ça ne veut pas dire que passion opposée à la raison ou à la pensée, c'est du même ordre. Mais c'est un homme d'affect. Et que toute sa philosophie, aussi bien sa religion que sa philosophie politique, que sa morale, tout ça est basé vraiment sur cette conception de l'homme comme être de passion. C'est pour ça que c'est aberrant de parler de la philosophie politique de Hobbes sans les autres éléments et sans parler notamment des passions. Alors, la peur, ça joue aussi un rôle, et un rôle positif chez Hobbes, parce que la peur va faire qu'on va créer des pactes de non-agression, et puis qu'on va passer à l'état de république. Donc, ce qui pourrait être considéré au départ comme une passion négative, n'est pas négatif. On l'avait déjà vu chez Descartes, on a ici la même chose chez Hobbes. Toutes les passions sont en soi positives, il faut bien les utiliser. Alors qu'on est aujourd'hui dans une société où on a tendance à considérer des passions positives et d'autres négatives. Ici, c'est pas du tout le cas. Voilà, je vais m'en tenir là pour laisser le temps à la discussion, mais je suis prête à poursuivre la discussion dans un sens ou dans l'autre avec grand plaisir. La parole est à vous. Merci. Oui. C'est mieux avec le micro parce qu'on enregistre et sinon on ne comprendra pas.
Le titre du livre, c'est Léviathan, ça vient de la Grèce.
Non, le Léviathan, c'est un monstre qui est dans la Bible. Voilà, on voit d'ailleurs dans Job 41:24. Et c'est le seul monstre qui est plus puissant que Dieu, est-il dit dans la Bible. Et c'est la référence montre, c'est toujours l'idée que l'homme peut être un dieu pour l'homme et même au-delà des bienfaits que Dieu pourrait donner aux hommes, qui sont les bienfaits de l'état de nature, en s'associant, les hommes peuvent ensemble créer un monstre, entre guillemets, qui a une force et une puissance qui est même supérieure à celle de Dieu. D'autres...
Vous avez parlé à un moment donné des animaux aussi pour Hobbes. Donc jusqu'où va-t-il pour les animaux, juste avant la raison?
Oui, parce qu'il n'y a pas le langage proprement dit, et donc ils ne peuvent pas raisonner. Ils restent donc, ils pensent, mais ils restent attachés aux enchaînements tels qu'ils se sont déjà produits entre les affects, les pensées, les sensations, etc.
Pourtant, ils s'associent quand même dans certaines... pour certains animaux.
Ah, mais l'association, ça...
Parce que ça revient un petit peu à...
Oui, on voit les avantages de la vie en commun, mais ils ne considèrent pas qu'il y a vraiment chez les animaux l'instauration d'un souverain, en tout cas. Mais sinon, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Il y a juste le raisonnement par le biais du... langage. Et le raisonnement, c'est de l'ordre d'un calcul assez simple qui est l'addition et la soustraction pour Hobbes. Donc à partir de là, on peut...
Peut-être que s'il vivait actuellement, qu'il aurait peut-être étayé ses théories en voyant qu'on peut apprendre à parler et à calculer à certains singes aussi.
Il est probable qu'il aurait... Ben oui, bien sûr, ces découvertes-là... C'est pas impossible. En même temps, pour l'époque, il va déjà tellement loin. On est vraiment à ce niveau-là à une pensée qui pourrait être extrêmement choquante, hein, même. Et pourtant, quand on regarde l'idée de volonté, ben c'est vrai que finalement, il y a une volonté chez les animaux, en tout cas les animaux domestiques, il y a des affects, il y a une forme de langage aussi, d'une certaine manière, mais au niveau, pas par les mots, quoi. Donc, pas avec possibilité d'abstraction, en enchaînement de pensées, d'affects, de sensations, et même d'imagination, hein, sans aucun doute. Oui.
J'ai encore une petite question. Oui. Vous avez parlé à un moment donné de la philosophie antique,
oui,
qui, elle, était plus dans le sens... éviter les émotions, éviter, oui, les passions, un petit peu aussi comme les philosophies asiatiques. Alors, devenir zen, c'est un petit peu aussi éviter toute passion.
Oui, alors, il y a peut-être des différences, mais je me rappelle avoir invité, il y a bien une quinzaine d'années, professeur Perrin à une conférence où il avait comparé le bouddhisme et l'épicurisme, et c'était assez convaincant. Et c'est vrai qu'on est... Ben, c'est des philosophies asiatiques qui datent aussi, hein, de pas mal de temps et de l'Antiquité et qui restent... la philosophie antique, il y a des éléments qui... C'est vrai qu'aujourd'hui, les passions... Disons que certaines passions sont considérées positivement chez nous aujourd'hui, mais on n'en est pas encore à considérer toutes les passions comme quelque chose de positif. Ce qu'on avait chez Descartes et qu'on a aussi chez Hobbes, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a l'idée dans la philosophie asiatique souvent de calme des émotions, des passions, etc. Et pour ça, Hobbes est beaucoup plus extrême encore que Descartes, parce qu'il accorde au mouvement un rôle déterminant et parce qu'il y a quelque chose chez lui de vital dans cette recherche et dans ce désir, ces désirs qui nous animent continuellement. D'autres questions ?
Peut-être oui. Une petite question. Il y a également dans Hobbes, pour autant que je le sache, une question de droit inaliénable. Voilà.
Oui.
Qui, d'abord, parce qu'il y a encore une passion dont je ne crois pas que tu as parlé, c'est la peur de la mort. Et le droit de défendre sa vie qui est un droit inaliénable pour Hobbes.
Oui, mais c'est parce que, enfin, j'en ai un peu parlé sans le parler directement. Le désir de conservation de sa propre vie est un désir fondamental parce que, ben, sans celui-là, il y a les autres désirs n'ont pas beaucoup de sens. Donc, c'est pour ça qu'il y a une recherche de la sécurité. Et c'est vrai que, vu que la République et l'instauration d'un souverain sont là pour qu'on puisse vivre plus en sécurité et avec tous les avantages de la vie en commun, mais le souverain ne peut pas avoir un droit de vie et de mort sur les personnes. On ne peut pas transférer à quelqu'un ce droit sur sa propre vie parce que ça n'aurait aucun sens de créer une république et de perdre et d'être donc plus en insécurité que l'on l'est dans l'état de nature.
Mais bon, ce qui m'étonne chez des philosophes comme lui, c'est la précocité vis-à-vis d'autres pensées qui viendront un siècle plus tard, en fait, hein, puisque le Bill of Rights et le Habeas Corpus sont pratiquement 100 ans avant toutes les données de la Révolution française et des philosophes des Lumières. Hein,
oui, et au niveau des passions, on peut. Je suis absolument persuadée que Freud a volé beaucoup à Hobbes aussi.
Nous y arrivons.
Lui aussi, c'est un être de passion et de désir, l'homme. Il y a beaucoup en commun.
Oui,
quand on regarde Totem et Tabou, c'est vraiment. Même la vie en communauté tient énormément.
Oui, mais ici, Hobbes. On voit que ce soit Descartes ou que ce soit Hobbes. La passion peut vivre à côté de la raison.
Oui, mais pas chez Descartes, mais chez Hobbes, il n'y a même pas de réelle différence entre les deux. Oui.
Il faudrait attendre justement Freud et les surréalistes pour qu'on en arrive à scinder la passion et la raison en disant que le principal ennemi de la passion, c'est la raison.
Mais... Ils vont dire ça, mais ils reprennent plutôt une vision qui serait assez chrétienne aussi, hein, mais en la renversant. Parce que chez eux, c'est les passions qui sont positives et la raison manque de principe vital, pourrait-on dire, est asséchante. Mais on avait exactement cette vision-là dans l'Antiquité et dans le monde chrétien, renversée. Il fallait se méfier des passions et là-bas et faire dominer la raison, et chez les surréalistes on va avoir l'inverse, se méfier de la raison et développer les passions. Mais ici chez Descartes, chez Hobbes, il n'y a pas d'opposition fondamentale et ils trouvent tous deux dommage de se défaire d'un des aspects au profit purement et simplement d'un autre. Les deux doivent fonctionner ensemble pour être le plus heureux possible.
Un dernier point, la reine d'Angleterre est également chef de l'église anglicane. Donc, elle joint les deux pouvoirs, temporel et religieux, dirais-je.
Hobbes était royaliste et a été soutenu par Charles Ier, puis Charles II, dont il a été le précepteur. Et il considérait en effet que c'était le meilleur système à ce niveau-là, parce que justement, le pouvoir n'était pas au... Le pouvoir religieux n'était pas aux mains et n'était, ne constituait pas un contre-pouvoir. Il a vécu une période de guerre civile importante qui était clairement fomentée par les religieux qui voulaient, après justement, quand Henri VIII ait repris le pouvoir religieux, qui voulait le récupérer. Et donc, il considérait comme extrêmement dangereux pour la paix qu'il y ait un autre contre-pouvoir. On est dans une époque où Bellarmine, qui est le chef de l'Inquisition, c'est lui qui fera les... Mais c'est un grand théologien aussi, mais qui mène les combats en Inquisition contre Giordano Bruno, à la fin Giordano Bruno, mais surtout contre Galilée, il considère que le pape est le véritable souverain de toute la terre et que les souverains doivent faire allégeance au pape. Et on a toujours ça pendant longtemps après, où les souverains se font couronner par le pape. Napoléon a fait pour ça un scandale. Il a bien sûr été à la cérémonie, mais il a pris les mains, la couronne des mains du pape pour se la poser lui-même. Mais on est dans une vision où, dans le monde catholique en tout cas, ben non, puisque là-bas, évidemment, il y a le souverain. Oui.
Madame, c'est vrai que Hobbes a eu beaucoup d'influence sur beaucoup de penseurs. Vous avez dit Freud, bon, on peut dire aussi Marx avec le matérialisme, etc. Mais il n'empêche que je me sens mal à l'aise parce que devant ce despotisme que Hobbes se défend, toutes ces gens qui lui décernent tous leurs droits, hein, sauf peut-être d'attenter à leur vie, mais il a tous les droits. Or, il ne faut pas oublier qu'Hitler a été élu par plus de 90% des Allemands. Et qu'à ce moment-là, il n'y a plus de défense de la vie, ni rien du tout. C'était vraiment le pouvoir absolu. Je pourrais vous dire que les printemps arabes se sont élevés contre des dictateurs qui, au départ, étaient nantis des meilleures dispositions. Je pourrais en parler, j'ai été dans ces pays-là, etc. Mais qui, après, ont abusé de leur pouvoir. Donc, bien sûr, pour l'époque des fortes républiques, etc., bon, c'était un progrès. Mais le défendre maintenant, parler de ça maintenant, pas le défendre, parler de cette forme de république maintenant, je crois que ça doit être fait avec beaucoup de précautions. Parce que il n'y a pas d'exemple où ce genre de pouvoir absolu ne provoque des exagérations. Même quand il s'agit de pouvoir éclairé, etc. Vous en avez parlé aussi. Donc, je me sens mal à l'aise devant cette théorie, cette philosophie de Hobbes, même si à l'époque elle constituait un progrès.
Je comprends votre réaction. Je crois qu'elle serait différente si vous alliez lire l'ouvrage. Entre parenthèses, si vous décidez d'aller lire le Léviathan, faites-le dans cette traduction de Tricot, parce que la traduction de Poche est une catastrophe pleine de contresens. Donc ici, c'est vraiment important de prendre cette traduction. Mais c'est aussi parce que l'idée de... On n'arrive pas à comprendre, à imaginer un pouvoir absolu qui ne soit pas un despotisme ou une dictature. Et ce n'est pas parce que on est... Le souverain, c'est pas juste quelqu'un qui est élu. Si c'est de l'ordre de la démocratie, c'est le souverain, le peuple qui fait les lois. C'est, et qui donc ne s'avilit pas lui-même. Pour autant, on peut le lire comme sous forme de despotisme. On peut tout autant le lire sous forme d'une démocratie qui fonctionnerait. Alors, et par rapport, bien sûr, par rapport à l'époque, mais même par rapport aujourd'hui, cette lecture-là est tout à fait jouable. Mais il faut dépasser les mots de pouvoir absolu et quelques mots comme ça, mais qui sont toujours associés à Hobbes, bien entendu, dont on a fait un ennemi, un méchant par excellence, hein. Aujourd'hui encore, c'est un philosophe qui est vu essentiellement négativement et en éliminant... Ben, ce n'est pas par hasard si dans la citation « L'homme est aussi bien un dieu pour l'homme qu'un loup pour l'homme », on a retenu que pour Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Et c'est vraiment ce type de vision qu'on a sur Hobbes et que je trouve dommageable, et c'est pour ça que j'ai un peu insisté sur les autres aspects qui sont laissés de côté. Mais je comprends votre malaise, tout à fait. D'autres questions ? Non ? Dans ce cas, je vous remercie pour votre attention. Je vous invite pour la prochaine séance qui sera chez Passion, chez Spinoza, le 26 janvier, ce sera présenté par Anne Erlach, que vous avez peut-être déjà entendu il y a quelques années. Et la semaine prochaine, on a Histoire d'un gastronomie avec la séance sur le Moyen-Âge qui était prévue le 8 décembre et qui a été reportée à la fois prochaine. Merci.